Sessions-sur-Marie, à Rimont, le 23 avril 1994, sixième conférence, Père Marie-Dominique Philippe.
Marie, c'est que Dieu, cette intervention de Marie. Cette intervention de Marie, comment s'est-elle faite? Je crois qu'elle s'est faite avec la plus grande discrétion. Marie n'a pas crié ça tout, hein. Jésus, hein, écoute, vois un peu. Ils n'ont plus de vin. Oui, dans un repas de noces, dans un pays de vin, le vin des noces vient à manquer. C'est anormal. J'étais à Fribourg. Et peu de temps après, j'étais à Fribourg, j'étais invité dans le Valais, pays de vin. À des noces. Et j'ai vu ce que c'était que le vin des noces. Il y avait dans un coin de la salle, au moment du banquet, il y avait un tas de bouteilles. Tous les amis avaient apporté ce qui était le meilleur de cru. Hein, pour la fille. C'est évident, pas pour le garçon. Mais pour la fille qui se mariait. Alors il y avait un tas de bouteilles. Alors j'ai pensé tout de suite à Canard. C'était le vin des noces vient à manquer. Comme dans un pays de vin, le vin des noces ne manque pas. C'est impossible. C'est tout à fait anormal. Vous voyez, si vous invitez Monseigneur au repas, ben vous faites attention quand même qu'il y ait du vin. Surtout quand c'est en Bourgogne. On fait attention quand même. Il manque de vin, d'affolement. Alors vous pouvez chercher toutes les raisons possibles. Bon, peut-être que les 12 apôtres n'étaient pas prévus. Alors ils se sont... En pieux novice, ils se sont jetés là-dessus. Ils sont beaucoup plus que... Alors, il ne faut pas oublier que les noces, ça durait 8 jours. Hein. Alors, on comprend que peut-être, on n'avait pas eu, je ne sais pas, il faisait très chaud, c'est possible aussi. On ne dit pas. Un événement, l'événement, c'est ça. Vous voyez, l'événement, mis dans le journal, l'événement. C'est qu'il manque de vin, Cana, à ses noces. Alors, je vois très bien. Dans les traditions de ce temps, là, on peut donner des renseignements. Et les exégètes sont précieux. Parce que ça existe encore comme ça, dans certains petits villages qui, paraît-il, sont en Syrie maintenant. Où il y a des traditions qui sont demeurées. Maintenant, je ne sais pas, mais je me souviens, un père de Jérusalem qui avait visité exprès ces petits villages pour voir les mœurs des gens. Ce sont les hommes qui sont à table et les femmes à la cuisine. Ça existe encore comme ça dans certains petits villages là-bas. Et donc Marie est avec les serviteurs. Elle n'est pas à côté de Jésus, pas du tout. Elle est à côté des serviteurs. Et ce sont des hommes qui servent le vin, pas des femmes. La tradition est nette. Et ça, c'est plus grand que toutes les traditions. C'est l'homme qui sert le vin. À cause des paroles de l'Ecclésiaste. Qu'un homme s'enivre, ça va encore. Mais qu'une femme s'enivre, non. Ah non, ça ne se fait pas. Donc Marie est avec les serviteurs. Elle voit leur ennui. Elle a l'œil là-dessus. Maîtresse femme, Marie. Elle voit tout de suite ça. Elle aurait pu. Je suis invité. Je ne vois rien. Tout est parfait. Il y a des gens qui sont invités comme ça. Oh, c'est parfait, c'est rien. Merveilleux. Marie est invitée, mais elle est engagée. Parce qu'elle est invitée, ce sont des amis. Elle prend sur elle tout de suite. C'est ça qui est merveilleux. Elle prend sur elle tout de suite cet ennui terrible. Des servants de vin, de ses amis. Il manque de vin, il n'y a rien. qui va plus. Et dès que Marie prend cette misère, elle la confie à Jésus. Tout de suite. Vous voyez, Marie apparaît tout de suite comme médiatrice. La femme. La femme est médiatrice. La femme par excellence. La femme saisit plus que l'homme les misères des hommes. Tout le temps. C'est le baromètre. Ça, c'est le cœur de la femme. Elle voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chez les serviteurs. Et elle est tout proche des serviteurs. Alors, elle va tout de suite le dire à Jésus. Alors, vous savez que dans un dialogue, ce qui est très important, c'est la manière dont on dit les choses. Dans un discours, dans un cours, c'est important, mais c'est secondaire. Tandis que dans un dialogue, la tonalité fait tout. Et ici, c'est très bref, hein, c'est un dialogue très court. Parce que quand on connaît très bien les personnes, on n'a pas besoin de donner d'explications. On comprend tout de suite. Marie sait que Jésus est intelligent. Et Jésus sait que Marie est intelligente. Et donc ils se comprennent. À demi-mot. Mais ceux qui sont autour ne comprennent pas. Et quelquefois, les exégètes sont autour. Les serviteurs de la parole de Dieu ne sont pas dans les confidences. Entre Jésus et Marie, un secret. Ça, j'en suis sûr. Comme des personnes qui se connaissent très bien. Jésus a vécu quand même pendant 30 ans avec Marie. Peut-être 31 ans. Donc ils se comprennent à demi-mot. Comme des amis. Ils n'ont pas de vin. Alors, voyez l'intonation auprès de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est dit dans Saint Jean, c'est la voix. Et la voix implique l'intonation. On sait très bien quand on n'a plus de voix ce que ça fait. C'est l'intonation. On n'est pas habitué, évidemment, mais... dès qu'on manque, dès qu'on n'a plus la foi, on s'aperçoit combien la foi est une chose précieuse. Parce que c'est le contact. Quand on n'a plus de foi. Alors, la manière dont Marie a dit ça, ils n'ont plus de vin. Jésus répond, femme. Et je crois qu'il faut mettre femme en début. Que veux-tu ? Alors, ici, tous les exégètes sont d'accord là-dessus. Le « que veux-tu » est très difficile à traduire. Le père Hostie, que j'aime bien, parce que c'est un paysan, il est paysan jusque dans son exégèse. C'est-à-dire qu'il aime le sillon bien fait. Et il n'aime pas les choses des intellectuels qui ne comprennent pas le réalisme de l'Évangile. Il a un réalisme étonnant, le Hostie. C'est ça que j'aime bien chez lui. Alors, il met en note, tout simplement, comme veux-tu, littéralement. Quoi ? Pour moi et pour toi. Hein, pas t'avais la même chose comme Dieu. Cette histoire, Dieu qui manque du vin, mais qu'est-ce que ça te regarde ? Est-ce que ça me regarde ? Oh, très bien ça. C'est presque un reproche à Marie. Presque. Tu t'occupes de quelque chose que lui. Non. Quoi pour toi et pour moi ? Alors, on renvoie, comme toujours font les exégètes, à d'autres lieux semblables. Vous avez toute une série de lieux, Marc 5, 7, 1, 24, etc. Alors, on souligne, alors ça c'est l'exégète, idiotisme hébraïque, ça vous avance beaucoup, pour repousser une intervention jugée inopportune. Et on renvoie à des lieux. Comparez Luc 2, 49. vous dire tout simplement, ce que tu me demandes, ça ne me regarde pas. Laissons passer. Quoi pour toi et moi, femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc si je prends littéralement ce qu'un bon exégète, comme Ostie dit, et des quantités ont dit ça, Jésus rejette la demande de Marie. Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc tu vas trop vite, tu es trop pressé. Ce qui arrive facilement pour les femmes. Vous savez, la mère de Jean et de Jacques, quand elle intervient, on pourrait dire qu'elle intervient un peu trop vite. Et Jésus l'avait loin. C'est dans Saint-Luc. Quand elle demande que ses fils soient à la droite et à la gauche, premier ministre, second ministre, dans le royaume du Christ, Jésus dit, ça ne me regarde pas, ça regarde le Père. Jésus aurait pu dire ça. Qui est du vin ou qui n'est pas du vin, ça ne me regarde pas, ça regarde le Père. Ça regarde le Créateur. Et il aurait pu avoir une boisson plus abondante. Non, ça ne me regarde pas. C'est net. Mon heure n'est pas encore venue. La première qui doit comprendre le langage de Jésus, c'est bien Marie. Or, que fait Marie ? Sa mère dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Si Jésus a refusé, Marie ne va pas forcer la main à Jésus. Or, en disant, faites tout ce qu'il vous dira, Marie force la main à Jésus. Il faut qu'il refuse. C'est pas très élégant. À l'égard d'une mère qui aime son fils, qui n'est pas connu, c'est mettre vraiment Jésus dans une situation impossible. Et vous savez qu'il pourrait faire ça. Il pourrait agir, il n'agit pas. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, comment comprendre ça ? Beaucoup de pères de l'Église et quantité de pères de l'Église qui ont commenté ce passage ont toujours dit Jésus montre la rupture entre la vie qu'il menait avant à Nazareth et sa vie apostolique. Et c'est pour ça qu'il dit femme. Quand vous regardez Luc, c'est toujours la mère de Jésus. Toujours. Luc ne dit jamais femme. C'est Jean qui dit femme. Alors vous ne pouvez pas dire que c'est Jean qui l'a inventé. Sûrement pas. Mais on voit très bien comment on peut interpréter la mère de Jésus. Jésus avait beaucoup de respect pour sa mère. C'est dit dans l'Écriture. Hein. Honore ton père et ta mère. Et Jésus honorait son père et sa mère. Ça c'est sûr. Marie était la mère. Ici, Marie est la femme. Donc, on voit très bien comment les pères de l'Église ont dit rupture entre la vie cachée et la vie apostolique. Donc, dans la vie apostolique, ne t'occupe pas de ce que je vais faire comme apôtre. J'ai choisi mes apôtres sans toi. Viens, que ça continue. Certains ont interprété comme ça. Moi, ça me gêne beaucoup. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre interprétation ? Est-ce que Marie, qui est quand même préparée à la vie apostolique de Jésus, Jésus, pour elle, est le Fils du Très-Haut. Il est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Marie l'aime. On ne peut pas dire. Il y a un lien très fort. Jésus commence sa vie apostolique, enfin. Alors, Marie qui connaît très bien l'Écriture, elle connaît ce qui est le livre dans le livre de la Sainte. sagesse invite à un repas de noces. Je ne crois pas que Marie puisse vivre des événements quand Jésus est présent uniquement d'une manière extérieure. Elle comprend la conduite du Père sur Jésus. Et que cette conduite du Père, depuis le cinquième mystère joyeux, vous voyez bien ce que ça représente dans Saint-Luc. Jésus a 12 ans, qui donne sa première leçon de théologie, qui commence sa vie apostolique auprès des théologiens. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est pour ça que la dernière reproche, c'est auprès des théologiens. L'encyclique Splendor Veritatis. Jésus commence sa vie apostolique auprès des théologiens. Il n'a demandé la permission à personne, ni à sa mère, ni à son père. Et ça a été très rude pour Joseph, ça a été très rude pour Marie. Et Marie lui dit, vois comme ton père et ta mère ont souffert. Depuis ce jour-là, Marie a reçu la parole de Jésus. Marie a reçu la parole de Jésus pour lui donner comme une conduite. Ne fallait-il pas que je sois tout entier aux affaires du Père? Ça, c'est net. Pourquoi me cherchez-vous? Ne fallait-il pas que je sois tout entier aux affaires du Père? C'est une parole qui est très nette de la part de Jésus. Jésus est sous la mouvance du Père. Il ne fait que ce que le Père lui demande. Et donc Marie, à partir de ce jour-là, a compris qu'elle ne devait plus avoir aucune initiative. Elle devait laisser Jésus prendre des initiatives. Marie voyait l'état de son peuple. Jésus monte à Jérusalem pour la première fois et qu'il va au temple, il prend le fouet. Première intervention publique de Jésus par rapport au culte de l'époque, par rapport à la liturgie de l'époque. Il prend le fouet pour chasser les vendeurs du temple. Et sûrement que ce n'était pas sûrement pas. Et Jésus, depuis 12 ans jusqu'à 30 ans, allant au temple, voyant les vendeurs du temple gagner progressivement du terrain, ne respectant pas le temple comme la maison de prière, Jésus, fils de Marie, se taisait. Il s'est tu. De 12 ans à 30 ans, il s'est tu. Quand Jésus commence sa vie apostolique, Jésus ne peut plus se taire. Il prend le fouet. Vous voyez, c'est très très important ça. Parce que là, quand devons-nous intervenir quand on voit des abus, des abus liturgiques, les vendeurs du temple? C'est un petit problème qu'on se pose habituellement. Quand on voit des choses que le Saint-Père réclame et demande et qu'on n'applique pas, on ne fait pas, est-ce qu'on doit intervenir? C'est pas commode. Pas commode du tout. Est-ce qu'on doit faire un scandale? On doit se taire. Si on se tait, on est complice. Si on fait un scandale, est-ce qu'on doit le faire? On fait quelquefois pire que tout simplement prier et se taire. Jésus de 12 ans à 30 ans, c'est Dieu. Jésus commence sa vie apostolique, il fait ce geste. Ceci montre bien combien Marie a reçu dans son cœur ces paroles de Jésus. Pourquoi me cherches-tu ? connaît la misère de son peuple. Et connaissant la misère de son peuple, elle l'expose à Jésus. Ça ne peut pas être autrement. Quand Jésus regarde Marie en disant « femme », il montre la mission nouvelle de Marie. Et la mission nouvelle de Marie, c'est de coopérer à la vie apostolique de Jésus. En femme, le sacerdoce royal de la femme. Et le sacerdoce royal de la femme, c'est de porter la misère du peuple de Dieu et de la porter au plus intime de son cœur. Et par le fait même de la présenter à Jésus. C'est ça la médiation. On porte la misère des autres et on la présente à celui qui peut seul venir au secours de cette misère. Alors on commence à comprendre dans la lumière de femme, et je crois que c'est très important, voyez, de voir ce regard nouveau de Jésus sur Marie, puisque c'est ça qui est important. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein? Jésus nous dit ça. Alors, est-ce que nous aimons Marie comme Jésus l'aimait? C'est la chose principale. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est la dernière parole de Jésus selon saint Jean qui nous est donnée. Et dans la première épître de saint Jean, ça revient tout le temps. Aimer le prochain, l'aimer comment? Comme Jésus. Comme Jésus l'a aimé. Comme Jésus l'a aimé. Est-ce que nous aimons Marie comme Jésus l'a aimé? Alors quel est le regard de Jésus sur Marie? Luc nous montre le regard de Jésus sur sa mère. Jean nous montre un autre regard. Jésus regarde Marie en lui disant « femme ». Alors comprenons bien cela, nos chers exégètes. Pour comprendre ça, disent, il faut regarder ce que dit Dieu sur la femme dans la Genèse. Moi je dis l'inverse. Pour comprendre le regard de Dieu sur la femme, comprenons le regard de Jésus sur Marie quand il lui dit « femme ». Le parfait fait comprendre l'imparfait. C'est jamais l'imparfait qui fait comprendre le parfait. Or, le regard parfait de Dieu sur la femme, c'est le regard de Jésus sur Marie. On est tous d'accord que Marie est la femme parfaite. Hein. Si parfaites que soient des femmes qui suivent des sessions de théologie, n'est-ce pas, à côté de Marie, elles sont imparfaites. Je suis bien obligé de le dire, quoi, c'est la vérité. Et pourtant, elles ont soif de la vérité. Autrement, elles ne seraient pas ici. Elles ont soif de la sagesse et de la vérité. C'est le caractère d'une femme, ça. Suffisant de comprendre le regard de Dieu créateur sur la femme. C'est pas suffisant. C'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Ô ce mes os, chair de ma chair. Jésus peut dire ça de Marie. Ô ce mes os, chair de ma chair. C'est vrai. Pas un seul fils n'a ressemblé autant à sa mère que Jésus à Marie. C'est saint Albert le Grand qui dit ça. Et c'est très beau. L'atavisme a joué à plein, comme jamais il n'a joué, entre Marie et Jésus. Puisqu'il n'y a pas de contre-atavisme, si j'ose dire. Pour nous, il y a toujours deux atavismes, l'atavisme du père et de la mère. Et quand il y a un Asiatique qui épouse un Européen, l'atavisme est très visible. qu'un seul atavisme. Et comme c'est l'Esprit Saint, que c'est un miracle, la maternité de Marie est un miracle. Quand Dieu met la main à la pâte, il le met pour Cana. Albert le Grand est attentif à ça. Le vin de Cana est meilleur que tous les autres vins. Si on avait pu en garder une bouteille. Il est meilleur que tous les autres vins. On le témoigne. Parce que celui qui est le président du banquet, d'où vient ce vin? D'où vient? Je connais pas. Mais c'est excellent, c'est extraordinaire ce vin. Quand Dieu met la main à la pâte, il le met très bien. Et le vin de Cana était meilleur que tous les autres vins. Ça, j'en suis sûr. Vous verrez au ciel que le vin de Cana était un vin extraordinaire. Alors, voyez bien, ça c'est le miracle. Quand Dieu intervient miraculeusement, il fait les choses mieux que la nature. Il ne va pas contre, mais il achève la nature. Et donc la maternité de Marie sur Jésus, c'est le modèle de toutes les maternités. Et théologiquement, on ne peut comprendre dans le regard de Dieu ce qu'est la maternité et la grandeur de la maternité. Et aujourd'hui, c'est important, l'année de la famille, que dans la lumière de la maternité de Marie auprès de Jésus. Et quel est le fruit de cette maternité? C'est que Jésus ressemble à sa mère d'une manière unique. Et Albert le Grand développe. La sensibilité de Jésus était toute proche de celle de Marie. Marie avait l'ouïe d'une façon particulièrement fine pour écouter toutes les nuances de la parole de Jésus. Elle avait, et ainsi de suite. C'est très beau ça. Parce que c'est un réalisme étonnant. À Cana, la première fois où officiellement on a Marie qui intervient. Marie avait dit à Jésus au cinquième mystère joyeux: pourquoi nous as-tu fait cela? C'était pas un reproche, mais très proche d'un reproche. Pourquoi nous as-tu fait cela? Et Jésus répond en interrogeant: pourquoi me cherchez-vous? Jésus ne donne pas de réponse. Il montre que Marie n'a pas de réponse, n'a pas d'interrogation à faire. Et là, il corrige sa mère avec la délicatesse merveilleuse de Jésus. Ici, il y a cette demande de Marie aux très humbles. Ils n'ont plus de vin. Ta fête, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit: femme. Cette demande, c'est la femme. C'est le regard de Jésus sur elle. C'est la femme qui porte la misère de son peuple. Cette misère très simple, un repas de noces auquel il manque de vin, c'est une petite misère. Pour une femme qui veut que les choses soient bien, surtout pour un repas de noces. Et c'est une misère beaucoup plus grande, parce que c'est la misère de son peuple qui n'a plus la parole de Dieu. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors ça peut se comprendre dans un code tout à fait unique entre Jésus et Marie. Il y a l'unité de cœur. Entre deux amis, il y a unité de cœur. Idem velle. Le même vouloir. Alors, si je suis là, c'est en tant que commençant ma vie apostolique. C'est l'amour que j'ai pour les hommes. Et je retrouve en toi l'amour pour les hommes. Dans ce petit détail, mais si important, s'il est vu en profondeur. Le repas des noces, de la sagesse. Le peuple d'Israël est invité à cela. Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui reçoit la parole de Dieu. En premier lieu. Et le peuple d'Israël ne reçoit plus la parole de Dieu. Il n'y a plus de prophète. Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Ça, je peux le dire, hein, puisque le Père hostile dit. Et je traduirai comme ça, moi. Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mais entre nous deux, il y a l'unité. Ce que tu veux, je le veux. Salut Marie.